Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons revenir aux sources du christianisme en compagnie de l'historienne Marie-Françoise Basselez. Vous avez enseigné l'histoire grecque à la Sorbonne et à l'École normale supérieure, où vous avez présenté les religions du monde gréco-romain. Bonjour Marie-Françoise.
Bonjour à vous.
Vous avez écrit entre autres une biographie remarquée de Saint Paul et nous vous avions reçu il y a quelques années pour un essai « Comment notre monde est devenu chrétien ». Un essai qui avait connu un franc succès. Et vous vous intéressiez à l'époque à la christianisation politique de l'Empire romain pendant 3 siècles, où vous décrivez une évolution non brutale sur la durée, avec des stratégies missionnaires des apôtres et le positionnement des chrétiens dans la société. Ce matin, nous allons revenir en arrière, entre le 1er et le 5e siècle, et vous posez une nouvelle question. Comment les chrétiens sont devenus catholiques? Alors nous sommes autour d'un ouvrage qui est sorti cette année aux éditions Taillandier, « Comment les chrétiens sont devenus catholiques, 1er au 5e siècle ». Le mot catholique interpelle, comme vous l'écrivez dans votre préface. Vous convoquez des textes, documents juifs, grecs, romains, syriaques. On apprend beaucoup, on réfléchit, on s'interroge. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre? Est-ce une continuité du travail précédent?
Il y a toujours continuité, il y a aussi complémentarité. Comment notre monde est devenu chrétien, c'était, comme vous l'avez très bien rappelé, c'était montrer la pénétration de l'évangile, du christianisme dans le monde antique. C'était finalement assez facile à faire. Et là, je voulais réfléchir sur la construction de la communauté chrétienne, du peuple des chrétiens, de l'intérieur. Ça m'est apparu tout de suite beaucoup plus difficile à faire. Alors j'étais poussée par 2 réactions et 2 expériences. La première, celle d'enseignant. Ça m'a toujours frappée que, ah oui, catholique, ça ne me pose pas de question maintenant, et catholique, le chrétien qui appartient à l'Église romaine. Ça paraît clair à tout le monde. Et donc ça détermine une histoire rétrospective très limitée, trouver les origines de l'Église romaine telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. En oubliant que catholique, à partir du 2e siècle, tout le monde se dit catholique. Ce n'est pas une désignation distinctive parmi les chrétiens, c'est une expression, on y reviendra, de l'identité chrétienne. Alors, mon expérience d'enseignant, j'étais frappée par le fait que les étudiants, croyants ou non-croyants, pensaient que Jésus avait disparu le jour de l'Ascension, était monté au ciel et avait disparu, en laissant tout en ordre. Une espèce de testament, une église instituée, des apôtres qui seraient des évêques, tout juste s'il n'y avait pas de pape, que tout le monde était catholique, tout le monde était chrétien, et qu'il y avait un programme, en quelque sorte, dans les évangiles appliqués. Et on se rend compte, quand on lit les évangiles, donc les textes de base du christianisme, à la fin du 1er siècle, qu'il n'y a pas du tout un programme. Il n'y a pas de fonctionnement liturgique, à part la scène, là, le dernier repas du Christ. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de hiérarchie, tout est à faire. Et c'est cette espèce de trou, de blanc au premier siècle qui démarre tout en fait. Tout était à faire et comment ça a été fait? Alors comment ça a été fait? C'était faire autre chose que l'histoire des origines. Ce que je trouve aussi un petit peu, c'est que je m'estime complémentaire d'une histoire de l'Église telle qu'elle est faite traditionnellement. Mais l'histoire de l'Église, c'est souvent chercher, c'est faire une histoire des origines. Quand apparaît l'Eucharistie, comme on la connaît maintenant, quand apparaît un évêque, quand apparaît le pape, le début de tout, dans un programme prédéterminé. Et plutôt que je fais l'histoire des origines, j'essaie de me placer du point de vue des gens, de ces chrétiens, passés au temps vécu. Comment, puisqu'on couvre finalement 15 générations, ou à peu près, comment donc de génération en génération, sans qu'il y ait de programme déterminé, les choses s'étaient construites. Donc ça, c'était la réponse du prof aux étudiants, en quelque sorte.
Est-ce qu'on peut dire que vous déplacez le regard, finalement, qu'on ne parle plus de politique au sens de l'Empire, une religion qui se développe dans un nouveau contexte politique, mais au contraire, vous vous mettez au niveau de la communauté?
De la communauté et des différentes appartenances, des différents cadres communautaires dans lesquels l'homme de l'Antiquité était forcément intégré. Il vivait en communauté beaucoup plus que nous. L'homme privé n'existe pas, c'est le christianisme qui le fera émerger mais assez tardivement. Et donc, catholique, quand le terme apparaît au début donc du second siècle, on le trouve sous la plume, si j'ose dire, ou le stylet, comme vous voulez, donc d'Ignace d'Antioche, un évêque d'Antioche, condamné à mort et transféré à Rome pour être exécuté, et qui écrit des lettres au cours de son parcours de captivité, donc dans l'actuelle Turquie.
Peut-être de resituer la période, nous sommes au début du second siècle.
115-117, sous le règne d'un grand empereur qui est l'empereur Trajan. Et là, donc, le terme de catholique, il apparaît pour la première fois. C'est pas une invention d'Ignace, des chrétiens, donc, comme on le dit souvent. Il était déjà apparu dans le judaïsme diasporique. Et au fond, là, on trouve un trait commun au christianisme des origines, le tout premier christianisme qui nous échappe souvent et qu'il rattache à sa matrice juive. C'est une religion diasporique, une religion faite de communautés dispersées, isolées les unes des autres, qui va falloir articuler dans une unité de foi. Donc, ce critère de religion diasporique, les juifs de la diaspora ont commencé à y réfléchir, entre autres Philon d'Alexandrie, un grand philosophe judéo-alexandrin, qui est à peu près contemporain de Jésus et de Paul, disons, pour faire les choses très simplement. Et c'est lui qui invente l'étiquette de catholique. Pour lui, donc, il parle de juifs catholiques, si vous voulez. Ce qui nous paraît encore évidemment beaucoup plus étonnant. Donc, pour lui, l'appartenance au judaïsme, elle est catholique, en ce sens que pour le croyant juif, c'est une appartenance qui englobe toutes les autres. Donc, qui le réalise complètement en tant qu'individu. Son appartenance locale à telle communauté de la diaspora, son appartenance au peuple d'Israël, au peuple élu, donc qui englobe toutes les autres. Et ça m'a montré aussi l'actualité du concept et du sujet, donc, parce que catholique, c'était pas du tout un terme. Pour nous, ça veut dire universel, et on le comprend en général dans le sens d'une expansion territoriale, une religion qui couvre le monde entier à l'échelle de l'époque. Et en fait, catholique, c'est assez proche, je pense, pour les Grecs de l'époque, de notre concept moderne de globalisation. À un moment donc où on commence à penser à l'échelle du monde, trouver donc des structures, des appartenances qui vont permettre à l'individu particulier, d'un lieu particulier, isolé, de se réaliser dans cette unité.
Alors décrivez-nous là ce que nous on appelle des conciles, mais je crois qu'on parlait plutôt de synodes à l'époque de ces premiers siècles. Comment se forgent les termes de la foi ?
Donc nous voyons catholique qui va beaucoup et qui va évoluer notablement. Donc au début c'est l'appartenance qui englobe toutes les autres, c'est-à-dire l'idée que le chrétien se réalise comme catholique, il se réalise comme citoyen, il se réalise comme patriote, il se réalise complètement, c'est celle qui englobe toutes les autres. Donc, mais elle est appliquée de façon très différente. Par exemple, en 250, un magistrat romain interroge un futur martyr, un chrétien qui comparaît devant lui, et ils lui disent qu'ils donnent beaucoup. Le chrétien se dit « Je suis de l'Église catholique, prêtre de l'Église catholique ». Le romain lui répond « Mais de quel catholique au pluriel ?» Donc on voit que c'est pas du tout ce que c'est devenu, une église parmi d'autres, structurée, avec sa hiérarchie, sa structure, sa doctrine, son chef, ce qui est maintenant l'Église catholique romaine, puisque les deux termes sont maintenant affiliés les uns aux autres, mais c'est une expression, une qualification identitaire qui prend des formes différentes. Un autre exemple de cet emploi très diversifié du mot catholique, c'est alors, on saute au 3e et au 4e siècle, beaucoup plus tard, il y a une partie des communautés chrétiennes d'Afrique affirme leur indépendance, leur particularisme, peut-être par fidélité à des traditions indigènes qui seraient celles des Numides. C'est ce qu'on appelle, dans le langage habituel de l'Église aujourd'hui, le schisme donatiste.
Nous sommes au début du 4e siècle, en 312.
Oui, ça commence en 312, mais le schisme, cette dissidence, va durer plus d'un siècle.
Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les grands enjeux ?
Alors, les grands enjeux, ça fait réfléchir à la notion de schisme. Alors pour nous, c'est clair. Enfin, en général, pour les catholiques aujourd'hui, c'est clair. L'hérésie, c'est une erreur doctrinale, c'est le mal absolu, le schisme, c'est un défaut d'obéissance, c'est une dissidence en quelque sorte. Dans l'Antiquité, les choses sont beaucoup moins claires également. Et ces dissidences sont venues à l'époque des persécutions générales, qui, loin de faire l'unité donc de toutes les églises chrétiennes, au contraire, donc, ont accentué des différences structurelles, des différences culturelles entre Église latine et Église grecque, Église d'Orient et Église d'Occident, et même au niveau local, par exemple dans la province d'Afrique antique, entre Église romanisée ou gréco-romanisée de Carthage, figure de Perpétue, et des Églises numides, plus marquées donc par l'indigénisme berbère. Donc, ça fait éclater toutes les différences. Finalement, les persécutions ont servi de cristalliseur. Et lorsque la paix a été rétablie, donc en Afrique, la fin de la grande persécution est de 312, les élections épiscopales ont été difficiles. Donc, les particularismes ont éclaté à l'occasion des élections épiscopales. Et il s'est constitué, donc, une sorte d'association des églises numides, assez opposées à la romanité, qui ont fonctionné de manière indépendante pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que l'Empire romain en fasse une question politique et les réprime. Donc il y a eu une longue controverse marquée, je vais y revenir, par des conciles ou des synodes pendant plus d'un siècle auxquels Saint-Augustin a activement participé. Et là, voilà la question, chacune des deux parties, l'Église romanisée de Carthage et les églises numides, se revendiquent comme catholiques. Et là, la question est vraiment identitaire, qu'est-ce qui mérite d'être catholique ? La fidélité à la tradition, donc, mais c'est une revendication, c'est un enjeu, et non pas donc une façon d'isoler une communauté parmi une autre.
Nous sommes ce matin sur France Culture en compagnie de Marie-Françoise Basselez pour évoquer un ouvrage qui est aux éditions Taillandier qui vient de sortir, « Comment les chrétiens sont devenus catholiques ». Une question importante que nous nous posons, c'est à partir de quand on a cette séparation claire, en tout cas dans la désignation, entre le monde catholique et le monde orthodoxe.
Alors là encore, comme toujours, enfin comme les chrétiens prennent des mots du vocabulaire courant, orthodoxe, ça intervient en second. Au début, donc c'est hétérodoxe, une meilleure désignation qu'hérétique, celui qui n'appartient pas à la doxa, au mouvement commun. Et on parle de celui qui se distingue à celui qui fait partie de l'unanimité, du consensus, c'est l'orthodoxe. Et le terme n'est pas tellement employé dans l'Antiquité, mais se met bien en place quand le canon des textes chrétiens est constitué, quand ce que nous appelons le Nouveau Testament est rassemblé, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle, dans les années 180, à l'époque d'Irénée de Lyon, pour mettre les Français dans un contexte qui leur est plus familier. Mais là encore, donc, il y a des textes, il y a des interprétations. Et au fond, ce que montre ma recherche et ce que montre ce livre, c'est que les choses ont été difficiles. Les choses ont été difficiles, mais pas forcément négatives. Encore une fois, il n'y avait pas des textes qui s'imposaient, des textes, une sorte de programme prédéterminé dans la prédication de Jésus qu'on aurait appliqué. On a travaillé au coup par coup, ça paraît souvent dans les textes, par exemple pour les hérétiques ou ceux qui ont fait des compromis lors des persécutions, on traite des cas individuels. C'est quelque chose d'intéressant là dans la pastorale des premières communautés. On traite des cas individuels, on traite les problèmes au coup par coup et non pas en définition dogmatique générale. Alors au début on le voit pas trop jusqu'à la fin du IIe siècle parce que finalement toutes les églises sont originaires d'une mission grecque jusque vers 180 et sont de langue grecque. On peut dire, sans forcer les choses, que Rome est la plus occidentale des églises grecques, puisqu'on y parle grec jusqu'à la fin du IIe siècle, et que le premier évêque vraiment latin et romain, Victor, est des années 190. Donc Rome est la plus occidentale des églises grecques, des églises d'Orient. Et quant à celle de Lyon, qui est tout aussi grecque à l'époque d'Irénée, des martyrs de 177, c'est le Far West. Donc jusque-là, le terrain d'acculturation, jusqu'à la fin du IIe siècle, ne joue pas un rôle déterminant. Mais à partir du IIe siècle, quand commence à se constituer, avec c'est le moment où l'Afrique commence à se convertir, à être évangélisée, avec un poids démographique et institutionnel très fort, à partir de là, donc, l'acculturation va prendre des dimensions, des caractères différents.
Le moment où on utilise les nouvelles langues qui sont vecteurs elles-mêmes de cette bonne parole.
Une nouvelle traduction de la Bible, la Vetus Latina avant la Vulgate, qui sera ajoutée à la Bible des Septante, et des concepts. Je dirais que la différence, me semble-t-il, en faisant les choses un peu schématiquement, c'est que les églises grecques, les communautés les plus anciennes, ont maintenu une culture du débat qu'expriment justement les synodes. Autour dans tout, pour l'instant, il faut quand même bien en parler. Synode ou concile, le mot est le même. Dans le concile en latin, il n'y a pas de différence d'importance. Concile en latin, synode en grec. Mais c'est un élément de la culture grecque. C'est le débat public, le débat des assemblées, non plus seulement des assemblées en cité, mais des assemblées provinciales que les Romains ont mis en place et qui sont très vivantes au 2e, 3e siècle dans l'Orient romain, à l'époque d'Iulius Aristide et d'autres. Donc je disais, cette construction de l'identité chrétienne, de l'unité chrétienne, des structures chrétiennes de l'intérieur a été très longue et très difficile. C'est en ça que mon livre peut paraître un peu choquant ou faire réagir au départ, mais ça se démontre d'un bout à l'autre. Ça a été difficile, mais en même temps, ce qui est assez intéressant, ça a ouvert une culture du débat dont les synodes sont justement le cadre. Donc un synode ou un concile, c'est une conférence épiscopale. Alors, faut pas s'imaginer que c'est très étendu. Au début, c'est 11, 12, 15, 30 évêques. 60 évêques, c'est un très grand concile. Même quand Constantin réunit son premier concile, ou synode, puisqu'il écrivait grec encore son administration à l'époque, c'est pour résoudre le schisme, la dissidence de Donatiste, c'est 11 évêques. Même l'empereur n'arrive pas à faire mieux, donc, vous voyez. Alors justement, Nicée, le concile ou synode œcuménique, c'est 300 évêques.
Voilà, là on passe à une vitesse, à un niveau supérieur. Voilà.
Donc, il y a une culture du débat, c'est-à-dire que les choses sont pas tranchées d'avance, on devient hérétique, on le devient progressivement, rétrospectivement.
Sans le savoir, forcément.
Pas le savoir au départ. Lorsque le contexte politique change, par exemple. Donc, les choses sont en évolution perpétuelle. Il faut prendre conscience du temps vécu et des gens qu'ils vivent. Mais c'est intéressant, on présente souvent les églises chrétiennes comme dogmatiques. Non, elles ne sont pas dogmatiques. Non, les choses n'étaient pas écrites dès le départ. Les choses se construisent et vraiment dans une culture du débat. J'ai des récits tout à fait émouvants, je dirais, de visites pastorales d'évêques d'Alexandrie dans le plat pays égyptien lors de ce qu'on a appelé plus tard une hérésie, mais en fait une idée nouvelle qui apparaît localement, qui est l'occasion d'un livre, et ils se déplacent, et on débat pendant 3 jours, très attentivement, toute la journée, et on s'écoute les uns les autres, et on cherche des points normatifs. Et donc, cette culture, la construction d'une identité dans le débat, dans l'échange, est une tradition grecque, celle de la parole publique en milieu grec, celle aussi de la compétition entre les communautés qui hérite finalement de la compétition entre les cités, laquelle se montrera la meilleure, laquelle sera la première dans l'ensemble du peuple chrétien. Et c'est l'acculturation qui va forger les églises d'Orient, y compris donc la prééminence de ce qui deviendra des patriarcats un peu plus tard, n'a pas son correspondant dans l'Église latine quand celle-ci se met en place à partir de la fin du IIe siècle. L'Église latine, marquée par l'héritage romain, est beaucoup plus juridique et se construira davantage autour d'institutions et autour d'un droit canon. Donc, effectivement, le fossé qui, à mon sens, est d'abord culturel, va s'agrandir, s'aggraver, donc, entre les églises d'Orient et les églises latines.
Un petit mot, Marie-Françoise Basselet, sur une partie de votre livre que je trouve très intéressante, les églises de Maisonnée. Alors, nous avions fait une émission sur Doura Europos, mais vous évoquez un autre lieu qui s'appelle Megiddo. Et je crois que c'est dans le cadre d'un ancien camp romain.
Alors, il s'agit d'une recherche archéologique qui est tout à fait active actuellement pour identifier les premiers lieux de culte chrétiens. Donc, ce sont effectivement Doura Europos, c'est une maison, c'est le cas typique. C'était aussi l'origine des synagogues, hein. Une belle maison de notable, une maison privée avec autour d'une cour intérieure, pouvant réunir de 30 à 50 personnes. C'est toujours la notion d'une communauté, donc, et qui reçoit des aménagements spécifiques en synagogue avec l'armoire des tables de la loi ou en église. Mais Megiddo, c'est autre chose. C'est un local associatif. Nous savons que les missionnaires chrétiens ont utilisé les locaux d'association. Paul a prêché dans un local associatif à Éphèse, par exemple, des milieux du 1er siècle. Et Megiddo, donc les fouilles, les archéologues israéliens, c'est en Samarie, ont trouvé donc, effectivement, en fouillant le sous-sol d'une prison, ça c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quand même, mais donc on trouvait à proximité d'un village juif, très vivant dans l'Antiquité, et d'un camp légionnaire romain, un bâtiment associatif, sans doute une sorte de messe d'officiers ou de HLM pour officiers avec leurs femmes. Et dedans, donc, une salle, toujours même contenance, 30, 40 personnes, avec au centre, donc, une table eucharistique identifiée par une inscription.
Dites-la nous.
Parce qu'elle est dédiée, donc, à Jésus, Christ, Dieu. Donc, c'est important théologiquement, la divinité du Christ. C'est les bases de la christologie. C'est donc important pour l'histoire des idées. C'est important aussi de voir que les chrétiens n'étaient pas tous objecteurs de conscience, comme on le voit de plus en plus clairement maintenant, comme on a voulu le dire quelquefois. Mais que, comme les marchands, ils ont certainement été un des facteurs de diffusion du christianisme en Orient.
Marie-Françoise Basselet, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Donc, je vous réinviterai pour qu'on termine l'histoire de ces fouilles de Megiddo. Je rappelle le titre de votre livre, Comment les chrétiens sont devenus catholiques, du 1er au 5e siècle aux éditions Taillandier. Je remercie Dany Journeau, Olivier Dupré et Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission Chrétiens d'Orient. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche et je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.